RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Retour des grandes gueules sur RMC, la radio, RMC TV, la télé, avec aujourd'hui autour de la table l'avocat Charles Consigny, la professeure d'histoire géo Barbara Lefebvre et le cheminot Bruno Poncet. De quoi va-t-on parler ? On reviendra sur les tests antidrogue dans les cabinets ministériels, puisque Sébastien Lecornu a dit que plusieurs personnes avaient été écartées de ces cabinets, des hauts fonctionnaires, des conseillers, après ces tests. Il y a des tests qui se sont révélés positifs, mais bien sûr, ils refusent de rendre public le nom des personnes positive. Est-ce qu'il devrait jouer la transparence jusqu'au bout, au moment où on apprend qu'un ancien conseiller, Gabriel Attal, dévoile, lui, dans une longue interview, le fait qu'il s'est drogué pendant des années. Opération, là aussi, de transparence, vérité. Est-ce qu'on est en train de changer d'époque et de montrer que, finalement, la drogue, elle touche tous les milieux et elle concerne tout le monde. On en parlera ensemble. Mais d'ici là, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce que propose une société de cabinets médicaux privés qui est implanté notamment à Paris, qui propose un forfait pour une prise en charge rapide. Vous payez plus cher pour passer plus rapidement devant le médecin. Pour la modique somme de 30 euros, en plus de la consultation bien sûr, le patient pressé obtient rendez-vous en moins de 24 heures. Une sorte de fast-pass, comme pour les attractions de Disneyland. C'est ce que nous raconte le Parisien ce matin. Et ça dérange l'élu de gauche, Lucie Castet, qui est élu à Paris et qui estime que ce centre médical met en place une médecine à deux vitesses. Voilà ce qu'elle le dit. L'installation d'un système de santé à deux vitesses, une santé pour celles et ceux qui peuvent payer, une autre pour les autres, eh bien, est inadmissible. Une santé où on ne soigne plus selon les besoins, mais selon les moyens. Une santé où la rapidité d'accès devient un privilège, ce n'est pas possible. En même temps, c'est quand même assez pratique. Si vous êtes prêt à mettre 30 euros de plus, eh bien, vous avez une consultation plus rapidement. Alors d'ailleurs, ce centre médical propose également des examens de radiographie, des prélèvements sanguins, en allant un peu plus vite que les autres. Est-ce qu'ils ont raison de faire ça ? Est-ce que vous trouvez ça scandaleux, le 32-16, Charles ?
Alors, d'abord, ça existe déjà. L'hôpital américain à Paris, un hôpital entièrement payant, dans lequel vous ne vous faites rien rembourser du tout, enfin en tout cas des clopinettes par rapport à ce que ça coûte. Et en échange de ça, effectivement, vous êtes
un service
pris en charge très vite, etc. Même si la médecine qui y est prodiguée n'a pas la même réputation que celle des grands hôpitaux publics français, qui, même s'ils le font dans des conditions parfois complexes, voire délabrées, prodiguent encore aujourd'hui la meilleure médecine du monde. Il faut le dire. C'est quand même une fierté française. Si vous êtes soigné à la Pitié-Salpêtrière, à Bichat, à Cochin, à Pompidou, vous recevez la meilleure médecine du monde. Donc, par ailleurs, que moi, je vois pas trop l'intérêt, à vrai dire, de ce dispositif, parce que quand même, aujourd'hui, avec Doctolib, quand on est à Paris, je trouve qu'on obtient un rendez-vous dans quand même beaucoup de disciplines assez vite, en réalité. Alors, pas forcément avec son médecin habituel, mais moi, j'ai fait, je vous dis
pas
tout,
en 24 heures.
J'ai fait vérifier ma vue récemment, avant de refaire des lunettes. J'ai moins 10 à chaque œil, si tu veux, donc j'ai voulu checker où ça en était, bon, avant de refaire des lunettes.
Attends, il t'a moins,
j'ai vu un ophtalmo, pas le lendemain, mais le surlendemain. Enfin, c'est en réalité, alors c'est pas mon ophtalmo, etc. De toute façon, il a pris sa retraite. Il était excellent.
Écoutez,
c'est pas grave. Je veux dire, on s'en fout. Il y a pas très longtemps, j'avais besoin de voir un ORL. J'ai vu un excellent ORL à Paris que j'ai eu le lendemain grâce à Doctolib. Mais oui, grâce à Doctolib, vous avez ceux qui n'ont pas.
Est-ce que tu as eu des dépassements d'honoraires, Charles? As-tu vérifié que tu as eu des dépassements d'honoraires?
Alors, ce qui est vrai, c'est que là, on va trouver que je ne me fais pas rembourser les actes médicaux. Donc non seulement je donne tout ce que je gagne à l'URSSAF, mais en plus je ne me fais rien rembourser.
Mais à chaque fois, tu vois des médecins qui ont des dépassements d'honoraires.
Donc ce que je veux dire, c'est que ça existe déjà via ce genre de système.
Oui, mais là, tu réponds.
Et moi, je suis désolé, mais le monde de Madame Castet, c'est Madame Castet qui crée ce monde où la France ressemble à Cuba sans le soleil, comme disait l'autre. C'est à cause
parce
de madame.
Il y a beaucoup de médecins.
C'est à cause de madame Castex qu'on est dans cet état de délabrement de la médecine.
Mais Jérôme, c'est avec toi 32-16 dans un instant. Mais Barbara et Bruno, est-ce que c'est choquant ou pas? Est-ce que vous pourriez faire appel ce genre de service?
Déjà, rappelez aussi quand même à madame Castex qu'il y a des majorations normales, c'est-à-dire 20h minuit, 6h, 8h du matin, par exemple, si là t'as besoin d'une consultation genre SOS médecin, c'est entre une majoration entre 35 et 42,50 et entre minuit et 6h du matin, c'est des majorations qui peuvent aller jusqu'à 50 euros. Bon, déjà. Par ailleurs, quand on a une vraie urgence, on appelle le 15. Ou bien on va aux urgences à l'hôpital. Oui. Maintenant, j'aimerais quand même que Madame Castex nous dise.
C'est pas la femme de Jean.
Ah oui, c'est vrai. Pardon, pas la faute. Mais parce qu'on parlait de Castex.
Jean Castex, c'est Lucie.
Non, mais
Castex.
Ça y est, je gueuillote. Quand tu as une infection urinaire et que tu soupçonnes une piélonéphrite et que c'est ta fille de 12 ans. Et que tu sais qu'aux urgences pédiatriques, t'en as pas dans ton coin où c'est fermé. Je suis désolée, Madame Castex, mais moi, je les mets les 30 euros. Quand t'as un problème dermato grave ou très, très handicapant ou un problème ophtalmo et que t'as vraiment besoin d'être vu dans la journée, oui, tu les mets les 30 euros. Et ça, et surtout, par exemple, pour ton enfant, où je pense particulièrement aux problèmes ophtalmo, mais dermato, parce que moi, il y a quelques années, on a eu des problèmes dermato avec ma fille. Avoir des problèmes dermato dans l'été, ben je vous dis, j'ai cru, je ne savais même plus où aller. La dernière urgence dermato qui existait à Paris était à l'hôpital Saint-Louis, elle a fermé. J'avais beau appeler, on m'a expliqué que en fait ça avait fermé et que maintenant c'était ouvert que pour les personnes sans domicile fixe.
En fait, tu es en train de dire que ça répond à la pénurie.
Mais bien sûr que ça répond.
De services dans le service public. Oui, c'est-à-dire que si cette société existe, c'est parce que il n'y a pas suffisamment de médecins disponibles. On veut pas passer. J'ai passé il y a pas longtemps des heures aux urgences. J'ai regretté. Je me dis j'aurais dû aller dans un cabinet privé.
Bien sûr.
Tant pis, j'aurais payé plus cher, mais je serais pas passé.
Surtout pour certaines spécialités.
10 heures pour une entorse.
Et surtout pour certaines spécialités, parce que gynéco, dermato. Si tu vas aux urgences à l'hôpital, t'as pas un dermato et t'as pas un gynéco qui est là, qui est à disposition. Donc tu vas attendre qu'ils descendent du service,
donc,
etc.
Donc Lucie Castex, au lieu de elle devrait se dire pourquoi on en arrive là.
Ben oui, ben alors et là, il faut demander à Monsieur Macron qui n'a pas levé le numerus clausus et qui continue avec sa réforme. Non, la réforme des études de médecine, c'est toujours la même chose. On est toujours sur le même quota d'étudiants en médecine. Et alors, d'ici 10 ans, on n'aura toujours pas les médecins qu'il faut dans ce pays.
Avant d'accueillir Jérôme et Samir, il y a beaucoup de monde au 32-16, Bruno.
Après, moi, il y a deux trucs qui me viennent à l'idée quand j'entends ça. Je me dis effectivement, médecine de riches, médecine de pauvres, mais c'est pas d'aujourd'hui. Par contre, je me dis que plus il y aura de plus en plus de centres comme ça pour les riches qu'ils aillent se soigner entre eux, ça va désengorger l'hôpital public. Et comme ça, l'hôpital public, peut-être que les gens, ils mettront pas 24 heures aux urgences.
Sauf qu'on se dira, comme ça existe, on va pas mettre plus de moyens dans l'hôpital public. Tu veux voir, c'est plutôt ça. C'est que comme il y a ce système se met en place, ce système à deux vitesses, mais on l'a vu venir quand même ce système.
Mais ça fait quand même
déjà.
Ça fait quand même que tu payes deux fois par ailleurs.
Ah bah oui, bien sûr.
Parce que tu payes déjà le système de santé avec des cotisations et tu repayes ta consultation.
Ah bah bien sûr. Non mais Jérôme est avec nous au 32-16. Bonjour Jérôme. Jérôme nous appelle de la Seine-sur-Mer dans le Var. Il est facteur. C'est pas Jérôme Marty et on le salue Jérôme Marty.
Que pensez-vous reconversion
de ce que proposent ces centres médicaux privés?
Je vois clairement qu'on a renoncé à soigner tout le monde, clairement quoi. Enfin, je veux dire, on trouve du temps pour les gens quand ils ont du pognon, quoi. C'est clairement ça aujourd'hui. Mais ça, comme on vous le dit, c'est vrai que on débute pas. C'est comme ça depuis longtemps. Mais j'aimerais bien qu'on prenne la bonne tangente, parce que franchement, enfin, je sais pas. En fait, parce que j'ai pas un rond, je pourrais plus me soigner demain. C'est ça la réalité. C'est ça qu'on veut offrir aux Français. Enfin, moi, je trouve ça un peu.
Mais ça, c'est pas vrai. Pardon, c'est pas vrai. C'est pas.
C'est un cabinet médical à Paris.
S'il y a quand même un pays dans le monde où on est soigné
gratuitement
avec la même qualité de médecine, même si c'est pas toujours les bonnes conditions, etc. Mais sur le fond du traitement, voilà, c'est quand même la France.
Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on y a une tangente, on est en train de partir sur une tendance où ça tend à s'éloigner quand même de ça. Parce que moi, je veux bien qu'on nous explique tous les jours que le pays il est magnifique, qu'on soigne tout le monde. Mais moi, par exemple, là, je suis en Dordogne aujourd'hui chez mes beaux-parents. Aujourd'hui, on prend des rendez-vous médicaux pour mes beaux-parents. C'est l'enfer. Il est obligé de faire 300 kilomètres pour aller à un rendez-vous, pour aller voir un médecin pour le cerveau. Enfin, là, il a des problèmes de yeux. Il est obligé de prendre un rendez-vous dans 2 semaines ou 3 semaines. Enfin, à un moment donné, nos médecins, ils n'ont pas de discernement pour savoir ce qui est important, urgent ou pas.
Non, mais Jérôme, en plus, ce que dit Jérôme, il parle de la Dordogne. Mais moi, j'habite à Nières-sur-Seine. Excusez-moi, je suis à 3 km de Paris. il n'y a pas de pédiatre à Nières-sur-Seine. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la médecine à deux vitesses, et même dans les villes proches de Paris, ou même Paris, en fait, tu te retrouves avec une pénurie de médecins et de spécialistes qui fait qu'aujourd'hui, t'as beau être riche, t'auras pas de médecin quand même. À Nières-sur-Seine, c'est des CSP+, la plupart. Il y aura pas de médecin plus que ça, en fait. Donc, aujourd'hui, t'es vraiment dans une médecine de riches et de pauvres, mais c'est une médecine de ville, une médecine de campagne. Enfin, on est vraiment éclaté le système.
On revient exactement au même sujet que lorsqu'on a parlé avec le porte-parole de la coordination rurale. C'est-à-dire qu'il faut penser long terme. Et quand on avait, il y a quelques temps, au moment du Covid, on nous a dit oui, il y a un problème avec les médecins, mais vous comprenez, on ne va pas former des médecins en 2 ans. Ok, mais ça fait depuis combien de temps ça? Parce que maintenant, là, la Macronie, ça aura duré 10 ans.
C'est ça le problème.
On ne formera pas plus de médecins avec les études de médecine telles qu'elles sont faites aujourd'hui en France.
Non, mais c'est pas que ça le problème.
Mais c'est ça le problème. Renseignez-vous sur tous les étudiants en médecine français qui partent faire leurs études en Italie, en Espagne, en Roumanie. Parce qu'en France, tu ne peux pas faire tes études de médecine.
Il y a des gens quand même, il y a des étudiants. Moi, je connais plein d'étudiants en médecine en France.
Non, mais excuse-moi, je me suis beaucoup renseigné. Non, Olivier, excuse-moi, tu parles, je crois que tu ne connais pas le sujet.
Non, parce que
aujourd'hui, il y a énormément de jeunes bacheliers qui ont le niveau pour faire médecine, qui veulent faire médecine, qui mourraient de faire médecine. Ils ne peuvent pas parce qu'il y a un numerus clausus qui ne dit pas son nom à la fin de la première année et parce qu'il n'y a pas assez de postes d'étudiants en fac. Je suis désolée.
Le problème, c'est qu'on a tout misé sur l'hôpital.
Mais par contre, on fait venir des médecins étrangers, ça, il n'y a pas de problème.
Le problème, c'est qu'on a fait un système où on a tout misé sur l'hôpital. On a fait apporter à l'hôpital toute la responsabilité de la médecine. Je suis désolée, moi, je suis une génération où on n'allait jamais à l'hôpital. On avait un problème. On appelait un médecin généraliste. Oui. C'était un médecin de famille. Alors, ce médecin de famille, c'est vrai qu'il était disponible plus largement. Il n'y avait pas les 35 heures. C'était plutôt des hommes plutôt que des femmes. Donc, il acceptait parfois de bosser le week-end, de venir le soir à 19h, 20h te voir, etc. Il allait à domicile. Et on n'allait jamais, enfin, moi, mes parents n'ont jamais amené aux urgences pour un problème qu'aujourd'hui, tu emmènes tes enfants aux urgences parce que tu n'as plus le médecin généraliste, tu n'as plus le pédiatre.
Et, Olivier,
et donc, c'est ça l'erreur.
Tu es d'accord avec moi, il y a certains gestes aussi qu'un généraliste ne veut plus faire. Quand tu te t'ouvres le front,
ils veulent plus bosser le week-end.
Quand
je
t'ouvres le front,
je veux pas me faire des copains au 32-16, mais ils vont appeler.
Quand tu amènes ton enfant qui s'est ouvert le front uniquement parce qu'il est tombé de trottinette, t'as plus un seul médecin qui veut bien faire 3 points de suture dans son cabinet médical. Il t'envoie aux urgences.
Mais c'est
nous, quand on était petit, on avait des points de suture chez le médecin.
C'est une question d'organisation.
Il y a tous les hypochondriacs de Paris et de Navarre, de tous les hypochondriacs de ce pays. Qui engorge aussi les cabinets médicaux. D'ailleurs, j'ai vu que le jeune Le Cornu souhaite plafonner un peu le nombre
de visites.
Les gens qui vont voir plus de X fois un médecin par mois ou par an, je ne sais pas exactement quel est son projet.
Il a dit 25 consultations par an.
Leur faire payer les consultations. Mais non, mais sauf maladie grave, évidemment.
Mais à un moment donné.
Enfin, les gens qui font des analyses sanguines tous les mois, je suis désolé. Très bien, mais ce n'est pas à nous de rembourser.
C'est tous les ans, les analyses.
Mais non, mais il y a des gens qui font des analyses sanguines tous les mois, c'est des hypochondriacs.
Et même qui se font des IRM, qui soient,
mais c'est pas la collectivité de payer ça.
Oui, mais le problème, c'est qu'avec Le Cornu et les autres, quand ils font la politique, ils font des généralités. Allez, on met tout. Non,
on parle pas des gens malades.
Mais il faut faire attention.
Oui, mais excuse-moi, quand t'as une sinusite chronique, il y a un moment où tu le veux, ton scanner, parce que t'en as ras le bol, que ça va faire 2 ans que tu vois plus le jour. Et donc, oui, t'as besoin de ton scanner. Je suis désolé.
Dans le nez aussi. Hein? Tu quoi, ça a les mêmes dans le nez quand t'étais petit.
Non, mais moi, ça m'a fait du bien, le scanner des
sinusites. Ça m'est arrivé, moi, petit. Jérôme est avec nous. Merci Jérôme. Samir est avec nous. Bonjour Samir.
Ouais, bonjour les GG, ça va ?
Vous nous appelez de Rennes, en Bretagne. Ouais, que pensez-vous de ce cabinet qui propose de vous faire passer plus rapidement, moyennant 30 euros de forfait supplémentaire ?
Mais moi, en gros, ça ne me choque pas. Je ne suis pas riche, mais il y a un cabinet ici qui s'appelle MedAlliance.
Oui.
En gros, tu arrives à Rennes, pour faire simple, tu arrives aux urgences, comme il disait, enfin, je crois que c'est Barbara ou...
Charles.
Ou Olivier qui disait que, en fait, les gens vont aux urgences pour tout et rien. T'arrives aux urgences, la dernière fois, ma fille, elle s'est cassé le bras. Il y avait 4 heures d'attente. On était chez MedAlliance. On avait payé 12 euros de plus.
Ah, voilà.
Ma fille, elle est sortie au bout d'une heure et demie avec un plâtre.
Voilà.
Et c'est ce que j'aurais dû faire, moi,
là. Bah oui, pour votre fille, vous êtes prêt à payer.
Ma femme, pareil. La dernière fois, elle est tombée. On est en train de faire les travaux. Elle est tombée. Elle est partie chez MedAlliance. Ils lui ont tout fait. D'un coup, les radios, les ceci. Tu viens aux urgences à Rennes. C'est une plaie, c'est une tannée. Je suis pas riche. Hein. Mais 12 euros, ça m'épargne. Et en plus, moi, mon médecin traitant, elle travaillait pas le mercredi, elle finissait à 17h et au final, elle a lâché son cabinet, elle est repartie dans l'hôpital privé. Et mon médecin, parce que j'ai trouvé un autre médecin à côté de chez moi, pour avoir un rendez-vous, faut y aller.
Donc, mais ce qui n'est pas normal, Samir.
Le
problème, Samir, moi je comprends ce que vous avez fait, et beaucoup de parents feraient la même chose. Le problème, c'est que vous avez payé deux fois parce que vous cotisez pour un système et vous n'allez pas dans ce système parce qu'il est défaillant, parce qu'il vous fait attendre. Et donc vous payez 12 euros supplémentaires, c'est là où ça ne va pas. C'est-à-dire, dans ce cas-là,
quand
c'est les cotisations. Hein.
Mais quand ils te remboursent, si tu prends 4 boîtes de médicaments, ça y est, c'est 2 euros, à la fin, on ne te rembourse même pas ta consultation. Donc dans tous les cas, on ne va pas me payer.
Ah, mais la réponse à tout ça, c'est que quand il y a des élections présidentielles ou autres, est-ce que les gens regardent le programme sur la santé? Non, le premier truc qu'ils regardent aujourd'hui, alors tout le monde les agglutine, c'est sur l'immigration. Sauf qu'à un moment donné, la santé, c'est un des problèmes qu'on a en France. La santé, l'éducation, tout le monde en parle, tout le monde se plaint de ce qui se passe. Et en fait, les gens te disent jamais le programme. Demain, tu demandes le programme de n'importe quel candidat. Moi, je reviens sur ce que Dorfield va nous faire. Il a été premier ministre, il a défoncé l'hôpital et tout. Bah, si, excuse-moi, mon cousin. La Macronie, 10 ans. C'est pire que quand ils sont arrivés. Moi, je peux te le dire. Tu peux
regarder
sur tous les
sujets. Non, mais ça,
sur
c'est
tous
sûr.
Les sujets. Donc,
alors
tu peux
là,
pas nous dire
bien d'accord.
Hein. Tu veux pas nous sortir
cas,
un Edouard Philippe ou un Natal qui veut se présenter alors que les mecs, pendant 10 ans, ils ont fait pire que ce qu'il y avait.
À parler d'amourir, ils ont rien à vendre.
Alors.
Et c'est dire, donc.
On remercie Samir et on regarde ce que vous en pensez puisque nous avons posé la question sur le compte X des grandes gueules. Est-ce que c'est une médecine à deux vitesses, ce que propose ce cabinet? Payer 30 euros de plus pour obtenir un rendez-vous en 24 heures chez le médecin. Vous dites oui à 77,4%, non à 22,6%. Ma pomme de Maurice Chevalier, l'une des chansons préférées de Charles. Cadeau.
Je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais.
Vous imaginez que j'écoutais ça à l'âge de 6 ans.
Ah, on imagine très bien, Charles, quand on
Ça se voit maintenant.
On le voit toujours.
On est dans les années 30.
T'as 23 ans, on croit que t'en as 52.
On comprend.
J'adorais. Je la mettais plus fort que ça.
Ma pomme.
C'est ça comme s'il écoutait du Iron Maiden.
Bah oui, magnifique. Très belle chanson.
Donc vous avez dit ce matin en diffusant du Maurice Chevalier qui s'est
passé. C'est comme la classe.
Dans un instant, aucun rapport. Les tests antidrogue dans les cabinets ministériels. Sébastien Lecornu, vous savez, a testé les cabinets ministériels, les conseillers, les hauts fonctionnaires. Certains ont été positifs à ces tests. Elles ont été écartées, ces personnes, c'est ce que dit le Premier ministre, mais pas question de rendre public le nom des personnes positives. Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'au bout dans la transparence? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
h 23, la suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, Charles Consigny. Et vous le savez, cette semaine, nous vous offrons un séjour au Parc Astérix. 2 jours avec nuit d'hôtel pour 4 personnes. C'est un séjour familial, 2 adultes, 2 enfants. L'occasion de profiter des 50 attractions et spectacles proposés cet été au Parc Astérix. Pour emporter ce séjour, c'est très simple. Vous envoyez le mot parc au 732-16. Parc au 732-16. Il y a chaque jour une gagnante ou un gagnant. Avec un passage en direct tout à l'heure dans les grandes gueules vers 11h20. À vous de jouer, à vous de gagner.
Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
C'est quoi ?
Sébastien Lecornu a annoncé que des membres de cabinets ministériels et des hauts fonctionnaires ont été écartés après des dépistages positifs à la drogue. Dépistages qu'il avait lui-même ordonnés en début d'année. Le Premier ministre, néanmoins, refuse de communiquer les noms des personnes concernées ainsi que leur nombre. Est-ce qu'il devrait aller plus loin dans la transparence? 32-16 pour intervenir. Et puis, on va parler aussi d'un ancien proche collaborateur de Gabriel Attal jusqu'à Matignon, qui a choisi de révéler publiquement sa consommation régulière de cocaïne. On va en parler dans un deuxième temps, mais déjà sur ces tests pratiqués par Lecornu. Est-ce que vous voulez savoir précisément combien il y a de positifs et qui sont ces gens?
Attendez, juste que j'ai une question. C'est pas mes impôts qui payent ces messieurs et mesdames?
Oui.
Ah, ils sont bien payés en plus les conseillers en cabinet ministériel. Donc j'imagine, donc bien si je comprends tout bien, c'est avec mon argent qui s'achètent leur drogue.
Oui.
Donc je crois que oui, en tant que contribuable et apparemment en tant que participant d'une certaine façon par voie indirecte au trafic de drogue, puisque ces gens utilisent l'argent que je leur donne par mes impôts. Oui, je veux savoir qui c'est. Oui, il me semble. Tout comme je voudrais savoir si la nounou à la crèche municipale se drogue, ou un prof, ou n'importe qui, ou un policier, je suis désolée, c'est payé par l'argent du contribuable, oui, de la transparence, c'est la moindre des choses. Surtout qu'ils ne sont pas payés au SMIC. Hein. Donc,
mais qu'est-ce que ça changera de savoir
si ça changera beaucoup de choses.
Jean-Pierre Dugenoux qui... parce qu'on ne les connaît pas, c'est des conseillers.
Et parce que là, si on ne les connaît pas, ça veut dire qu'ils vont peut-être être casés. Donc moi, je veux savoir qui c'est pour être bien sûr qu'ils ne seront pas
quand
casés.
Quand tu vois la politique qui a piqué depuis plusieurs années, j'imagine
Charles,
qu'ils sont tous drogués.
Il faut savoir... Qui sont ces gens?
Non, je pense que une mise à pied suffit. En revanche, si un conseiller d'un cabinet ou toute personne travaillant dans un ministère réagit positivement à un test de drogue, je pense qu'il doit être écarté du dispositif, ça c'est sûr. Il doit être viré, très concrètement. Mais publier une liste de noms, je vois pas trop ce que ça apporterait. Et les gens, malgré tout, ils ont quand même le droit d'essayer de continuer un petit semblant de carrière, quand bien même ils se feraient virer du ministère dans lequel ils travaillent.
Se soigner.
Et s'ils ont besoin de se soigner et de faire une carrière, par exemple, dans le privé, c'est quand même un peu mieux pour faire carrière dans le privé de pas avoir son nom qui est sorti sur une affaire de drogue. Donc,
ça serait un peu la double peine.
Mais je pense que c'est déjà une sanction que d'être viré. Vous savez, oui. Quand vous avez un job dans un cabinet ministériel, vous pouvez avoir potentiellement un beau job. On n'est pas tous, ils sont pas tous au cabinet de sous-ministres complètement anonymes. Il y en a, ils sont dans des beaux ministères. J'en citerai pas pour pas être cruel. Mais et donc dans ce cas-là, déjà vous faire virer, c'est déjà une sanction. Par ailleurs, libre d'ailleurs aux autorités en question de signaler les faits s'ils le souhaitent, s'ils estiment les faits graves au procureur de la République, ça fera d'autres sanctions encore. Mais la publicité du nom, c'est quand même flinguer totalement l'avenir de la personne dont il s'agit. C'est pas forcément indispensable.
Bruno Poncet.
Alors moi là-dessus, je suis d'accord avec Charles parce que je pense que déjà il y a le secret médical vu que une addiction à la drogue est une maladie. Donc autant que tu les sanctionnes en cas de récidive ou quoi que ce soit, parce qu'à un moment donné, tu as le droit aussi à l'erreur une fois. Mais je pense que c'est quand même important, par contre, qu'ils soient tous pistés, tous détectés. Et surtout, moi, je ne comprends pas trop, parce que dans beaucoup de métiers en France, tu es obligé détecté. Nous, à la SNCF, les métiers de sécurité, tu es détecté sur ça. Les policiers, j'imagine que oui. J'imagine que tu as un tas de métiers qui le sont. Donc moi, des gens qui sont aux responsabilités, aux manettes du pays, peu
les
importe.
Les conseillers, c'est pas...
Oui, mais ça n'empêche pas, Olivier, que les conseillers, c'est eux qui pondent les rapports et tout ça. Donc attendez, si dans le rapport, il dit qu'il faut supprimer 80 000 médecins, parce qu'il y en a trop en France, il faudra te poser des questions sur ce qu'il prend, tu vois. Mais après, il y a un autre sujet. Moi, je trouve que...
Est-ce qu'ils ne sont pas surtout représentatifs, finalement, d'une France où il y a quand même énormément de drogués?
En fait,
on est le pays où il y a le plus grand consommateur de cannabis d'Europe.
Oui, mais ça, il faudra se poser des questions sur d'autres sujets, parce qu'en fait, on est le pays où il y a plus d'addiction, parce que peut-être qu'il y a un tas de sujets sur, certainement sur la pression, sur les conditions de travail.
Oui, mais donc, Bruno, ça veut dire que les conseillers sont comme les Français.
Oui, mais ce que je voulais te dire, moi, sur les conseillers, c'est que pour en avoir parlé avec quelques-uns à l'époque où je me retrouvais dans les ministères pour essayer de défendre le bout de gras. En fait, tu parles avec eux et le mec qui t'explique.
Le bout de
gras. Bah oui, en fait, c'est comme ça que ça se passe. T'es, en fait, un ministère pour les retraites, pour les réformes ferroviaires. En fait, tous les conseils, quand tu en connaissais certains, des fois certains venaient aussi de la SNCF, quand ils étaient au ministère des Transports, ils te disaient qu'en fait, ils étaient sur le pont de 6h du matin à minuit, 2h, ils pouvaient. Et avec Borne, ils pouvaient se retrouver avoir des coups de téléphone à minuit et les mecs étaient en surtension.
Oui, ça c'est vrai. Je suis
tu peux
d'accord.
pas tenir. En fait, on est ce qu'on veut.
Mais attends, mais moi, mais c'est bidon à mort. Mais, pardon de le dire. Franchement, moi, j'ai déjà travaillé. Ça m'arrive très souvent.
De travailler
tard et de travailler sur un rythme soutenu en faisant 12 000 allers-retours entre tel endroit, etc. Avec des audiences qui durent tard, des trucs qui commencent tôt le matin, machin. Vous prenez un bon double expresso, une orange pressée, tout va bien. Faut arrêter cette histoire. En plus, dans les cabinets ministériels, excuse-moi. D'abord, c'est faux qu'ils travaillent autant. Franchement, j'en ai connu plein, c'est faux.
Attends, connu peut-être
faut,
pas
faut
que
vraiment,
vous...
non.
Demande à ce qu'on fait qu'ils
vraiment,
bon,
Non.
Attends, je suis désolé.
Faut vraiment être celui qui boucle le budget à 4 heures du mat pour être celui qui bosse beaucoup. Franchement, je les ai vus
quand
faire.
Quand il y a un projet de loi qui est dans
deuxièmement,
les mecs
non.
Sont
bloc, et deuxièmement, tous, deuxièmement, ils travaillent dans des conditions de rêve. Je suis désolé. Ils ont un pool de bagnole. Ils ont un pool de bagnole avec chauffeur. Ils ont une cantine. Enfin, même un service de restauration. Ils ont un secrétariat. C'est pas la charge de travail qui
évoquait
les forces
tout à l'heure les...
à prendre de la chenouf.
On évoquait tout à l'heure les médecins, mais chez les médecins, notamment les médecins de l'hôpital public ou les internes, il y a de la consommation
bien
de drogue
oui,
également.
Mais là, c'est encore autre chose. Voilà. Mais là, c'est encore autre chose en termes
oui, oui.
de rythme.
La grande différence, excusez-moi, je reviens sur c'est cette différence notable. Fois. Ces gens-là sont payés par nos impôts.
Oui, bah, comme le médecin à l'hôpital public. Hein.
Oui, oui, bah. Non, mais le médecin à l'hôpital public, il a en plus une mise en danger du patient. Excuse-moi, oui, si t'es
bah, c'est
mais bon, un interne
oui,
qui fait trois fois 24
heures. C'est peut-être plus important de faire des tests à l'hôpital que dans les cabinets ministériels. Parce que je pense que les médecins ont plus de responsabilités dans les hôpitaux bah, qu'un conseiller.
Oui, mais dans ce cas-là,
dans
non,
le
mais,
cabinet
oui,
de
mais
Monique Barbu.
C'était pour arbitrer sur la question des conditions de travail. Ah, oui. Un médecin, c'est parce qu'il est poussé par ses conditions de travail, un interne en particulier, ignoble, qui leur sont faites.
D'accord.
Les conditions de travail
oui,
du conseiller, oui. excuse-moi,
oui,
non.
Oui, oui,
donc
oui.
Les conseillers,
oui,
oui. je vais pas avoir de la ménité avec eux, alors oui. que le médecin ou l'interne,
non,
oui.
Bah, moi, je trouve que le médecin qui prend de la drogue et qui soigne est un criminel.
Mais t'as vu les conditions de travail des internes? Notamment,
importe,
ils travaillent comme des esclaves à l'hôpital
oui,
public.
Bien sûr, oui.
Les internes en médecine.
Oui, mais peu importe. C'est criminel. C'est
bah,
criminel.
Oui, mais
non, mais Olivier a raison.
Tu n'es
pas toléré.
Non.
Je suis
d'accord.
Tolérance zéro.
C'est pas la même,
oui, mais
c'est pas la même tolérance zéro que pour les conseillers,
pour
excuse-moi.
On est oui, mais 40 tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités
mais
entre ses mains.
Olivier.
Bah si. Je suis désolé. Un conducteur de bus, par exemple, tolérance zéro. Un médecin, tolérance zéro.
Toute la journée,
un expert comptable.
Mais les conseillers.
Le trafic de drogue en France, machin et tout.
Les conseillers, on va pas se mentir, les conseillers ministériels, c'est pas à cause de leur rythme de travail, c'est le petit monde dans lequel ils vivent, que le petit monde politico-médiatique, où on s'en fout plein le pif, c'est tout.
À ce sujet, bah, visiblement, on s'en fout plein de pif aussi à l'hôpital. Parce que,
encore une fois, ce n'est pas les conditions de travail pour les ministères et les journalistes, excuse-moi.
Alors, à ce sujet, on a un ancien collaborateur de Gabriel Attal, proche collaborateur de l'ancien Premier ministre, qui s'appelle Louis Jublin, et qui publiquement révèle dans une longue interview à Vanity Fair sa consommation régulière de cocaïne. Le communicant de 40 ans, en fait, prend les devants, nous dit-on, puisqu'il y a une diffusion annoncée d'une vidéo compromettante. On le voit sniffler de la poudre blanche. Hein. Cette vidéo pourrait être publiée. Et donc, lui, il explique
sucre.
Qu'il a eu effectivement un passé d'excès, d'addiction, lié à la pression du pouvoir. Il affirme aujourd'hui avoir tout arrêté depuis plusieurs années et vouloir dire toute la vérité sur son parcours. Et donc, il joue du coup vraiment l'opération transparence totale. Alors, est-ce qu'il a raison? En même temps, c'est assez courageux de sa part. Moi, je trouve, parce que c'est pas évident de se dévoiler, de raconter ses addictions. Hein. On n'est pas quand même, dans ce cas-là, en train de se mettre en valeur. Au contraire. Et peut-être que ça peut servir d'exemple, comme quand il y a des acteurs qui viennent expliquer qu'ils ont été, alcooliques ou autres, et qui racontent aussi leur parcours. Ça peut aussi aider certains. Charles, Bruno.
Non, moi, ce que, Bruno... je trouve quand même inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on va courir après le gamin qui fume une barrette de. Enfin, fume du shit. Par contre, t'as des députés qui se font gauler à vouloir violer leurs collègues avec de la CAM.
Quel rapport avec ce
Non, mais en fait, ça veut dire que la CAM, elle tourne. Non, mais en fait, la CAM, et quelle que soit la CAM, tourne fort dans les milieux de décision en France.
Ah, bah,
et je suis convaincu qu'aussi, certainement, chez les grands patrons, ça doit être la même chose. Et donc, il faut quand même
tu
se poser la question.
Il y a une hypocrisie, c'est-à-dire qu'on
mais veut y a une vraie
faire,
hypocrisie.
On chasse le consommateur en ce moment et on s'aperçoit que des consommateurs, il y en a partout, même dans les lieux du pouvoir.
Hier, chez toi, là, t'as Aurore Berger qui t'explique que dans son cabinet, tout le monde est. Personne prend de CAM. Moi, je te dis un truc. De fait, bah, qu'elle montre que personne n'a été gaulé chez
elle.
Elle
le dit, personne n'a été gaulé.
Écoute, elle a dit un tas de choses qui étaient vraies, surtout au niveau d'une crèche, à ce que je m'en rappelle.
En tout cas, on peut reconnaître à monsieur Lecornu, parce que c'était monsieur Darmanin qui avait dit ça, tu te drogues, t'as du sang sur les mains, etc. Je me rappelle.
Tout à fait.
Pour moi, monsieur Lecornu, il a cette volonté, alors je vois que sa transparence ne va pas jusqu'au bout, mais c'est déjà bien de médiatiser sur le fait, et je pense
alors,
quand même
faut,
que pour
préciser
que le pouvoir.
Que Lecornu est un de ses conseillers. Avait fait une overdose, je crois.
C'est ça,
fait
oui, de quel sexe.
Voilà.
Le truc de quel
et donc,
sexe.
Et donc, c'est suite à ça aussi qu'il a.
Non, mais c'est
mesure.
Bien, parce que, de toute façon, à pas se mentir, quand vous regardez certains trucs complotistes, etc., les trucs qui tournent sur l'Élysée, et sur le pouvoir en général, il y a tellement de rumeurs énormes qu'à un moment, je trouve que monsieur Lecornu, au moins, il a le courage d'essayer de mettre de la transparence là-dedans, en tout cas à l'échelle de Matignon. Et je pense qu'il a raison maintenant, faut qu'il aille jusqu'au bout.
Charles.
Non, je pense qu'il y a eu une espèce de griserie. C'est chez tous ces jeunes gens qui se retrouvaient tout à coup dans les palais de la République, à l'arrière des bagnoles avec Girofard et Motard, dans les antichambres du pouvoir, dans les médias aussi. Je pense qu'il y a eu une espèce de griserie et un côté... comment dire, un peu tout puissant et un peu on touche plus terre, voilà. Et ce que raconte le jeune Jublin dans son article, à mon avis, relève aussi un peu de ça. C'est-à-dire que ils en revenaient tellement pas d'être là où ils étaient, qu'ils avaient un côté un peu, je sais pas comment vous dire, chanteur de la Starac, qui mélange la politique et le showbiz, en fait, qui confondent plutôt la politique et le showbiz. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à titre personnel, moi, j'étais très critique sur cette tonalité prise par la politique en France, et que j'étais content quand des gens plus austères et plus âgés ont été nommés au même poste. Donc je pense que ça relève de ça. Quant à lui, bon, il passe à table, il raconte son truc, il se trouve qu'il n'est plus a priori dans le monde politique, donc tout ça le concernant se conjugue au passé. On verra bien les suites, mais je pense que c'est révélateur aussi d'une certaine époque et d'une certaine génération politique.
Et aussi de certaines pratiques par rapport à la drogue. Alors, parce que là, on parle de cocaïne, mais il y a aussi beaucoup d'MDMA qui sont liés aussi à des pratiques, le chemsex, etc. Donc, ça, c'est aussi un autre
monde.
Je
comprends que les Français jugent ça très sévèrement.
Mais parce qu'on est pénalisés.
Oui, et considère qu'il y a là une espèce de déconnexion de gens qui planent totalement et qui se croient au-dessus des lois, etc.
Alors, ça, on a posé la question, justement, après ces tests antidrogues dans les cabinets ministériels, est-ce que Sébastien Lecornu doit rendre public le nom des personnes positives?
C'est un grand oui.
Ben, vous dites oui, bien sûr, 86%, non, sûrement pas, 14% sur le compte X des grandes gueules. Dans un instant, on a le chiffre, on a le bilan de la canicule de juin, la deuxième canicule de juin. La surmortalité a bien été constatée. Plus de 5000 morts supplémentaires, et pas seulement des personnes âgées. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
h 42, vous écoutez Les Grandes Gueules, vous regardez Les Grandes Gueules, RMC ou RMC Story. Autour de la table aujourd'hui, Charles Consigny, l'avocat, Bruno Poncet, le cheminot, et la prof d'histoire géo, Barbara Lefebvre. On a les chiffres, on a le bilan de la deuxième canicule, celle qu'on a traversée au mois de juin. On a 5764 décès en excès, donc une surmortalité de plus de 5700 personnes. Ça a été recensé par Santé Publique France. Il s'agit d'une surmortalité jamais observée en France depuis la première grande canicule, celle de 2003. Ces décès se sont concentrés sur 3 jours, les 25, 26 et 27 juin. Voilà ce que détaille Santé Publique France. Il concerne toutes les classes d'âge, même si bien sûr les 75 ans et plus représentent à eux seuls 3719 décès en excès, mais ça veut dire quand même qu'il y en a 2000, ce sont plutôt des jeunes, et là c'est ça qui interpelle. Et beaucoup de morts à domicile, même s'il y en a encore dans les établissements accueillant les personnes âgées, mais des gens qui sont parfois seuls chez elles et qu'on a retrouvés sans vie. Alors est-ce que ce chiffre vous paraît excessif? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire, puisqu'on nous dit que les canicules vont se multiplier? D'ailleurs, depuis, on en a une troisième qui vient de se terminer. Donc, les canicules se multiplient. Il faut quand même faire en sorte que les gens arrivent à les traverser sans risquer leur vie à chaque fois, Bruno Poncet.
Mais en fait, la première question qu'on se pose, c'est que depuis 2003, on donne une journée de plus à l'État pour soi-disant s'occuper des anciens et tout ça. On a donné plusieurs dizaines de milliards. Pourquoi aujourd'hui? C'est pour qu'on ait autant de morts qu'en 2003 et que pendant le début du Covid.
Il y en a eu moins que dans les EHPAD, notamment qu'en 2003.
Oui, mais il y en a quand même eu dans les EHPAD. C'est un peu ça le problème, tu vois. C'est qu'en fait, à un moment donné, on te dit toujours, oui, on va s'améliorer, on a tiré les conséquences de ce qui s'est passé en 2003. En fait, non. Et puis, moi, j'étais voir le médecin hier et je discute avec elle et elle me dit qu'en ce moment, on va arriver des gens de mes âges, voire même un peu plus jeunes. On arrive, on est cuit. En fait, moi, ma sciatique, c'est des conséquences de ça.
Ça a fatigué l'organisme de tout le monde, ces canicules.
Alors,
ça, c'est
imagine
sûr.
Quelqu'un de 70, 80 ans, alors, parce que les anciens aussi, ils aiment pas boire, ils veulent pas la clim, machin, mais c'est qu'à un moment donné, forcément.
Tout le monde
est cuit, en fait. Et malheureusement.
Normal la nuit.
Et tu l'as dit, mais là, c'est c'est celle de fin juin. On va attendre les chiffres de juillet, oui, et ainsi de suite.
Mais en fait, il faut attendre d'ailleurs, parce que le bilan de la canicule de 2003, le vrai bilan, on l'a eu des mois plus tard, en fait.
Bien
on
sûr.
Est arrivé à plus de 17 000 morts.
Mais parce qu'en fait, il disait que, moi, hier, j'entendais un reportage.
Les pompes funèbres sont pleines.
Ouais, il disait qu'en plus, il y avait enfin, pour avoir les statistiques, il fallait voir aussi avec les hôpitaux, les pompes funèbres.
Je regardais dans, je sais plus dans quel journal ce matin, un gérant de pompes funèbres qui disait qu'il avait jamais autant travaillé.
Non, mais il y a effectivement un mal-être différé. Il va y avoir aussi des pathologies différées. Ouais, parce que le corps, il a encaissé pendant 15 jours, puis rebelote pendant 15 jours. Et puis si en août, il y en a encore une. Et moi, je pense que Bruno a aussi raison de souligner une chose. Il y a quand même une majorité dans ces 5700, c'est quand même une majorité de personnes âgées qui n'ont pas toujours conscience de la régulation thermique, qui ne boivent pas. Et ouais, c'est très difficile de faire boire une personne âgée. Moi, dans ma résidence, il y a une dame âgée qui a fait un malaise. Elle sortait faire ses courses, elle est très âgée, avec une doudoune. Et à chaque fois, je la voyais partir avec sa doudoune et traînant son cabas. Je me disais, je lui ai dit même une fois, mais tu vois quand même une doudoune. Alors évidemment, elle avait un peu froid en partant. Oui, mais sauf qu'en revenant, elle crevait de chaud. Résultat, elle a fait un malaise, et notamment un malaise cardiaque. Donc, il y a un moment aussi, les personnes âgées, il faut qu'on soit aux côtés d'elles, les accompagner, que ce soit les voisins, les familles. Quand on a, il y a une canicule, la famille ou l'environnement doit venir en aide à ces personnes qui n'ont pas la conscience de la question thermique, qui vont continuer à dire, moi j'aime mieux fermer les fenêtres. Ils vont pas comprendre qu'il faut ouvrir les fenêtres, que comment il faut mettre le ventilateur. Encore une fois, vraiment, il y a un isolement. La plupart des personnes d'ailleurs, il y a eu énormément de cas de personnes qui sont mortes. C'était l'isolement. C'est des gens qui étaient très isolés socialement. Donc on a un problème, certes, de canicule, mais à mon avis, on a surtout un gros problème d'isolement social d'un grand nombre de gens, et notamment de personnes âgées.
Charles Consigny.
Non, moi, je trouve ce chiffre effrayant, quand même. 6 000 morts sur un mois.
Non, sur 3 jours.
Au mois de juin, on nous dit.
Oui, mais avec les canicules.
Je trouve ça absolument effrayant. Et effectivement, on est toujours assez désemparé par l'impréparation totale dans laquelle nous sommes face aux événements climatiques pourtant prévisibles, annoncés, prévus, et ça laisse tout à fait songeur quant à l'efficacité des politiques publiques.
Pardon, mais
c'est surtout ça. Oui. Bah moi, oui, non, mais quand même, c'est ça.
Dans ton sens, moi, ça m'a fait pitié d'apprendre, pardon, hein, c'est comme ça que j'ai ressenti, que Sébastien Lecornu, en catastrophe, était obligé de commander des climatiseurs pour les distribuer aux hôpitaux. Alors, on sait très bien que tout le monde n'en aura pas, qu'ensuite, on avait Madame Rist, la ministre de la Santé, qui savait même plus trop où ils avaient été livrés. Tout ça dans la catastrophe. Je me dis, mais ce pays-là, qui est quand même un pays assez riche, qui est assez fier de son système de santé, on en est à commander en urgence des climatiseurs qu'on aurait pu commander cet hiver, tranquillement, à des prix, à mon avis, plus concurrentiels. En faisant un plan, en organisant, qui en a besoin. Et vraiment, ça m'a fait pitié. Je me dis, mais c'est comme ça qu'on est géré, quoi, en fait.
Bah oui, parce qu'ils sont pas au courant qu'il y a le réchauffement climatique. Ils savent pas ça.
Même Olivier, rappelle-toi le Covid.
Pardon, ça fait pitié. C'est pas la hauteur. C'est pas la hauteur d'un pays comme la France.
À quoi servent les agences régionales de santé?
Ah oui, ces gens-là, ils servent à quoi?
À quoi servent
les directeurs d'hôpitaux?
Les directeurs d'hôpitaux, les personnels administratifs dans les hôpitaux qui
servent à quoi, tous ces gens?
Ils servent au management toxique.
Attention, qui sont nombreux.
Ah, tu peux compter sur
qui ont des logements de fonction, des voitures de fonction, qui sont très correctement payés. Normalement, ils doivent prendre leur calendrier et se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer en mai, en juin, en juillet, en août? À quoi devons-nous nous préparer, etc.
On a des climatisateurs. Donc, on ne les utilisera peut-être pas, mais au moins, ils sont là.
Je pense que...
Après, il faut prévenir.
On est quand même sur une faillite de l'anticipation qui est assez criminelle, en réalité, puisque ça aboutit
et
à des morts.
Et il y a aussi des comportements irresponsables. Nous avons tous vu quand même des gens sous 42, 43 faire du sport, par exemple des footings, par exemple. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des plus de 50 ans faire du vélo de course.
Mais c'est pas eux qui meurent.
Non, mais d'accord, tu sais pas, ça peut justement 15 jours après on fait une crise cardiaque, ou 15 jours après on fait une poussée de tension, ou je ne sais quoi.
C'est la responsabilité.
Et par ailleurs, vous permettrez ce petit pas de côté, les animaux notamment les animaux domestiques également ont beaucoup souffert. Il y a des, alors la plupart des propriétaires, heureusement, d'animaux sont des gens responsables. Mais moi, j'ai vu quand même des affaires d'animaux abandonnés sur des balcons avec des gens qui partaient en goguette et qui laissaient leur animal à moitié mourant sur le balcon. Il a fallu l'intervention des pompiers pour libérer les animaux dans des voitures et sur des balcons. Et là, j'espère que la justice est passée et que les sanctions seront très sévères. Mais comme d'habitude, pour les maltraitances animales, je sais qu'il n'y a jamais de sanctions réelles.
Non, puis moi, je me rappelle aussi de discours qu'on a entendus au mois de juin, que oui, la canicule, c'est même pour tout le monde, et je citerai pas des pseudo-intellectuels sur des chaînes télé concurrentes ou ailleurs, même ici. Mais à un moment donné, faut jamais, moi je pense qu'il faut toujours avoir un petit peu de lucidité. Et quand tu commences à voir une canicule fin mai, une canicule début juin, et que tu commences
et
à entendre dire.
Et la troisième
dire
qui a été la plus longue vague de chaleur jamais enregistrée en France.
Et que tu commences à entendre dire que les hôpitaux sont engorgés, de dire oui, la canicule, de toute façon, il fait chaud, c'est pareil pour tout le monde et nous. Bah non. Parce que t'as quand même 6 personnes qui sont mortes en plus que d'habitude, donc ça veut bien dire, et on verra. Je pense que si on fait la sociologie de ces gens-là, je ne pense pas que ce soit des gens qui vivent dans des appartements bien isolés. Et parce que quand on était aussi en train de dire oui, les bouilloires thermiques, c'est encore une vue de l'esprit, faut ouvrir la fenêtre, ben voilà, on en est aujourd'hui. En fait, c'est qu'à un moment donné, eh ben oui, faut repenser notre urbanisme, faut repenser notre rapport à la chaleur, notre rapport à ça, peut-être notre rapport au travail, peut-être commencer à boulot à 6h du matin et faire une sieste de 14 à 18 comme en Espagne, et reprendre à 18h. Bah moi aussi, la sieste, je suis pour là. Bien. Suis pour, hein.
14, c'est 4 heures de sieste.
Non, mais il faut par ailleurs quand même s'équiper. C'est-à-dire que les gens, passés un certain âge, à voir à quel âge on fixe ça, pardon pour les plus jeunes de nos gens, de nos Français les plus âgés, mais je pense que, admettons, à partir de 60 ans, il faut avoir une clim chez soi. Je veux dire, il faut avoir une clim chez soi, sauf si vous habitez vraiment sur l'île de Bréa ou tout à fait au nord de Calais. Mais sinon, dans le reste du pays, il faut prévoir que vous aurez potentiellement plusieurs semaines
en urgence. Moi, je suis d'accord.
Très grosse chaleur.
Je n'ai pas le choix. Pour certains, c'est l'urgence. Par contre, il faut repenser à tout le reste, parce que je pense que la clim, et on le sait tous, la clim qui est aujourd'hui la solution sera le problème de demain, en fait. Et donc, il faut vraiment commencer aujourd'hui à, oui, en urgence pour les plus fragiles et les hôpitaux, les écoles aussi. Ce que tu as dit, gamin, ils pouvaient pas aller à l'école. Mais par contre, très rapidement, il faut changer notre urbanisme.
Et ça veut dire les architectes, ça veut dire le travail des architectes, parce que quand t'as un architecte qui est diligenté pour construire une école et que il trouve ça joli d'aller faire des baies vitrées partout,
exposer
blind sud, pas de volets, pas de machin. Après, on te dit ouais, bah c'est pas grave, on mettra la clim. Non, il y a des, on peut avoir des constructions écologiques, durables, et où on n'a pas besoin justement de mettre la clim. On va avoir une construction qui permet une régulation. Vous croyez qu'il y a pas des pays dans le monde où c'est, la construction, elle est aussi adaptée
au
climat?
Je veux bien, mais ce qu'on voit, je regardais la carte de la climatisation en France. Et ce qu'on voit quand même, c'est que dans les régions qui sont concernées depuis plus longtemps par épisodes de canicule, c'est-à-dire dans le sud, il y a un taux de clim énorme, il y a quasiment 80%
de Grèce,
clim.
Tout le monde a la clim.
Tu vas en Grèce, les maisons sont blanches, il y a tout ce que décrit Barbara, et il y a quand même la clim, parce qu'il y a des moments où t'es obligé de la mettre.
Même en Andalousie, par exemple, la clim, moi, quand j'y avais été, la clim n'était pas si développée ça, parce que ils avaient déjà des réflexes sur des ventilos au plafond et tout ça.
Ouais, c'est génial.
Je pense que ce qui serait aussi intéressant, c'est de poursuivre la recherche scientifique, technologique sur la clim, pour faire une clim moins polluante, moins consommatrice d'électricité, qui rejette moins de chaleur. On peut imaginer qu'on perfectionne.
Dans un pays qui a la chance de produire beaucoup d'électricité, puisqu'on a le nucléaire.
Tu verras qu'à l'avenir, on équipera les logements de chauffage et de clim pour adapter.
Mais j'ai comme dans l'idée de savoir déjà qui va être le pays qui va inventer la clim écolo. C'est les Chinois, parce que les Chinois sont complètement dans un virage écologique.
Une vidéo, je sais pas, virale, où ils se moquent de la Chine, se moque de nous avec nos histoires.
Ah non, mais
de clim,
ils sont dans un. Moi, j'ai des amis qui vivent en Chine. Le virage écolo, le Covid, ils ont tiré beaucoup de leçons du Covid, et notamment aussi de la surpollution de grandes métropoles comme Shanghai et d'autres. Ils sont en train de prendre un virage écolo, notamment accompagné avec l'IA. J'ai vu d'ailleurs qu'un grand nombre d'entreprises de la tech américaine sont en train de faire des alliances avec des entreprises chinoises. Donc t'inquiète pas, les clims de demain, hyper technologiques et peu consommatrices, vont arriver. Et comme par hasard, elles seront pas européennes, elles seront chinoises. Ben voilà, quand on n'est pas capable.
D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter, pour clore notre débat sur la canicule, c'est que un tiers des personnes qui sont mortes de cette deuxième canicule résidaient en Île-de-France. Oui. C'est aussi dans ces régions-là qu'on est moins adapté, en région urbaine,
tout est bitumé.
Urbaine. Hein. Et c'est pas dans le sud, c'est
tout est bitumé aussi.
Allez, dans un instant, on va accueillir un pompier qui va nous faire le point sur ce qui se passe en ce moment, notamment en Gironde. On est très inquiet de l'incendie en Gironde, qui a déjà parcouru 2400 hectares, qui a poussé à l'évacuation de 12 000 touristes. Ce n'est pas rien. Et puis aussi, se poser la question, a-t-on suffisamment de moyens lorsque la France fait face aux incendies, comme c'est le cas cet été? A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.